Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes au libre journal des controverses pour une nouvelle émission qui va justement apporter son lot de controverses. Je salue nos techniciens en place aujourd'hui. Arnaud et Virginie ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont, peut-être en vacances. Donc nous pensons à eux. Je salue bien entendu Patrice qui est au standard et qui va recevoir tous vos messages. Il est là pour faire les allers et retours. Bien entendu, je salue le prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker. Émission excessivement intéressante. Ce matin, je reçois la belle, la magnifique, la sublime Lise Philippe qui s'est mise sur son 31 ce matin à Radio Courtoisie pour son livre « L'imposture du social ». Ça fait, elle travaille d'ailleurs toujours dans le social depuis 20 ans et elle explique ce monde qu'elle voit de l'intérieur qui n'est pas celui que l'on pense. Bonjour chère Lise Philippe, ce livre-là, bonjour. L'imposture du social, pour le coup, si je puis dire, c'est un peu une bombe.
Oui, bonjour Mike, merci de me recevoir, de prendre ce temps pour prendre un pas de côté, faire un pas de côté et parler un peu des histoires françaises et du social particulièrement. Je trouve que c'est important qu'on aborde ce thème. Par contre, j'ai un souci, je ne te vois pas.
Bon, c'est pas grave, hein, du moment qu'on s'entende.
Allez, ok.
Voilà. Donc,
alors, oui, une bombe.
Oui, c'est une bombe parce que on a une image d'Épinal du social en France. Ça représente quand même, je crois, 35% du PIB, c'est-à-dire peut-être 800, 900 milliards. Et en fait, c'est pas aussi, aussi la chance que l'on veut bien dire, quoi.
Alors, je vais me présenter, si tu permets.
Vas-y.
Moi, je suis maman de deux filles, déjà. J'ai 42 ans et je travaille effectivement dans le social depuis 20 ans. Je suis conseillère en économie sociale familiale. Alors, conseillère en économie sociale familiale, comme j'aime à l'expliquer, bon, travailleur social, c'est plus simple, mais c'est pour expliquer que j'ai des compétences à la fois d'assistante sociale et d'éducateur spécialisé. C'est-à-dire que je peux accompagner les personnes en individuel et aussi en groupe, de manière collective. Et j'ai travaillé dans plusieurs structures différentes, c'était une volonté, hein. c'était une volonté de ma part de
lesquelles par exemple, pour que les gens se situent un peu.
Alors j'ai travaillé dans des centres sociaux particulièrement, j'ai fait 12 ans de centres sociaux, donc 3 centres sociaux, j'ai travaillé auprès de personnes, de jeunes porteurs de handicap dans un CESAD, c'est un centre qui permet l'insertion des jeunes porteurs de handicap et ou enfin mentaux et ou physiques, et de les insérer soit au niveau études et après au niveau aussi professionnel. D'accord. J'ai travaillé à la mission locale. J'ai travaillé à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, dite aide sociale à l'enfance. J'ai travaillé auprès de toxicomanes. J'ai travaillé auprès de gens du voyage. Donc voilà, j'ai fait
donc
pas mal.
Donc il y a tout le spectre en fait.
Voilà, ouais, j'ai de la petite enfance jusqu'à la fin presque de vie. J'ai travaillé avec à peu près tout le monde. Et j'en suis assez fière.
D'accord. Et justement, pourquoi ce livre aujourd'hui?
Alors. Moi, ça fait un moment que je vois les dérives hein, du social. Quand j'ai commencé, effectivement, on avait beaucoup plus de marge de latitude, je dirais, pour accompagner les personnes au mieux. Et au fil du temps, au fil des années, ben, les politiques, les finances ont pris le pas. Et de plus en plus, ben, comme un peu, enfin beaucoup, le secteur de la santé, si tu veux, il y a eu la T2A, hein, l'acte à tarification à l'acte. Et ben, ça devient comme ça dans le social, c'est devenu comme ça au fil du temps dans le social, c'est-à-dire qu'on nous demande de remplir de plus en plus des tableaux Excel, des statistiques pour être financé ou pas.
Alors attends, comment ça se passait avant? Qu'est-ce que ça veut dire avoir plus de latitude?
Alors, plus de latitude, c'est-à-dire que nous étions libres, un peu plus libres, par exemple, dans les centres sociaux. On n'avait pas tous ces tableaux, toutes ces statistiques à remplir. Si tu veux, tu faisais un projet social, parce que pour être centre social, il faut être agréé par la CAF, la Caisse d'allocation ouais. familiale. Donc, le projet social, c'est pour 3 ou 4 ans. Et puis, ben voilà, tu étais un petit peu tranquille par rapport à ça. C'était validé, tu avais les financements. Et puis, tu refaisais, 3 ou 4 ans après, tu refaisais un nouveau projet social. Avec des comptes à rendre, évidemment, quand même, des forcément des bilans D'accord. À vendre intermédiaire, et chaque année quand même, à la moitié de l'année et à la fin de l'année, mais c'était très soft. Aujourd'hui, on nous demande, pour ne serait-ce que déposer un projet social, en plus, au niveau de la CAF, en plus, il faut répondre à des appels à projets au niveau de la mairie, si on veut avoir plus de financement. Enfin, c'est mais, beaucoup de procédures.
Mais c'est pourquoi, pourquoi est-ce que on demande ça? Est-ce que c'est parce que voilà, ils ont dit que, enfin, les pouvoirs publics que voilà, le social commençait à coûter trop cher pour faire des économies? Est-ce que d'ailleurs vous faites des économies là-dessus depuis cette nouvelle réforme? Ou est-ce que c'est parce que voilà, il y a une bureaucratie qui s'est installée de plus en plus forte?
Je te dirais les deux. Et ça fait au moins 15 ans qu'on doit faire des économies absolument. Hein. Alors, on nous donne les mêmes financements. On augmente très rarement nos financements et on doit faire la même chose. En plus, même parce qu'on nous demande toujours d'avoir plus de personnes, d'avoir plus de personnes accompagnées, avec les mêmes moyens et aussi la bureaucratie, évidemment. Parce qu'un centre social, par exemple, donc il est agréé par la CAF pour être reconnu centre social, comme je te disais. Mais les financements, ils viennent de l'État, du département, de la mairie, des fois de la région. Voilà, pour pouvoir boucler un peu les projets, bah, il faut qu'on aille chercher des sous à droite, à gauche.
Alors, Donc, du coup, moi, ma question, c'est, voilà, ils veulent faire visiblement des économies, très bien, ok, pourquoi pas, mais comment se fait-il que dans la question du social, lorsqu'on regarde les chiffres du budget, quoi, ça augmente constamment? Donc, en fait, c'est pas efficace, leur truc.
Voilà, bah, c'est un petit peu ce que j'explique dans le livre. Malheureusement, c'est que toutes ces associations, moi je précise, j'ai toujours travaillé dans le privé.
D'accord.
Pensant être plus libre que dans le public, bon, c'était se fourvoyer parce qu'évidemment, c'est soumis aux politiques sociales aussi dans le privé, puisque nous sommes complètement biberonnés, perfusés aux aides sociales, aux aides de, comme je viens de le dire, de l'État, du département et de la ville aussi. Donc, je pensais être plus libre par rapport à ça. Mais oui, effectivement. Quand on voit les dépenses, elles sont toujours hyper importantes, et pour autant, nous, on a moins de moyens sur le territoire, sur le terrain, pour accompagner les personnes. Alors, c'est très questionnant, et ce qui revient dans toutes ces structures, c'est les fonctionnements. C'est-à-dire que, comme je disais, on nous demande toujours plus, avec moins de moyens, et des résultats qui sont parfois douteux.
Mais où va l'argent? Parce que ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que entre, on va dire, 2020 et 2025, parce qu'on est en est en cours encore, il y a, allez, un différentiel de plus 100 milliards. Pourtant, vous, en tant que travailleur social dans le privé, vous avez moins d'argent. Où vont ces 100 milliards? Je ne comprends pas, en fait. C'est parce que là, c'est quand même une question sur laquelle il faut répondre. On vous donne moins de moyens, pourtant ça coûte plus cher.
Ouais. Moi, je ne pourrais pas te répondre, évidemment, de manière globale, nationale. Moi, j'ai mis les chiffres dans mon livre que j'ai pu trouver. Mais c'est vrai que c'est questionnant. Moi, je pourrais te parler de mon territoire.
Hein, rien que ton territoire. Tiens, parle déjà de ton territoire. Comment on peut l'expliquer?
Les Bouches-du-Rhône, si tu veux, c'est par exemple, quand je parle du groupe SOS Solidarité, dans lequel j'ai bossé pour les personnes toxicomanes, qui est l'empire tentaculaire qui reprend toutes les associations, etc. J'explique, en fait, moi, quand je travaillais auprès de toxicomanes, je devais, en fait, retrouver ou trouver un logement, accompagner les personnes toxicomanes pour trouver un logement. Par exemple, ça pouvait être des personnes qui étaient SDF ou des personnes qui étaient dans leur logement, donc les maintenir dans leur logement parce qu'elles n'arrivaient plus à payer leurs factures. Et en fait, je faisais partie d'un dispositif qui s'appelle Mesure ASEL. ASEL, c'est A-S-E-L-L, ça veut dire accompagnement socio-éducatif lié au logement. Donc ça, c'est le département qui finance mon poste, d'accord ? Sachant que cette association, cette grosse association, touche des financements aussi de la sécurité sociale, puisque ce sont des personnes toxicomanes, donc c'est une équipe pluridisciplinaire. J'étais moi en tant que conseillère en économie sociale familiale. Il y avait forcément psychiatres et psychologues spécialisés et médecins spécialisés dans l'addiction, plus des infirmiers, etc. Donc une grosse équipe autour de ces personnes. Donc on touche, juste pour mon poste, hein, les mesures ASEL donc du département. En plus, ils sont relogés dans des logements qui sont achetés par le groupe SOS Solidarité. Donc, ces logements, ils sont déjà payés, mais ils vont toucher, en plus des sous du département de la Sécurité sociale, et la CAF aussi, la Caisse d'allocation familiale, pour les allocations logement notamment. Donc, tu vois, c'est tout un système qui fait que,
Attends, si je comprends bien, ça veut dire que une association, la SOS
SOS Solidarité.
Solidarité, possède du foncier, visiblement beaucoup de foncier, fait loger des gens qu'elle doit aider, et en plus, elle touche de l'argent dessus. C'est ça en fait?
Exactement. C'est exactement ça.
De l'argent public dessus.
Exactement. C'est tout à fait ça. Tu as tout à fait compris.
Ah mais c'est fou quoi. C'est-à-dire que...
Voilà.
Non mais là on est... Enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est les amis, des copains, c'est quoi, c'est le business associatif en fait.
Alors, c'est très questionnant parce qu'en plus, l'Empire, donc SOS Solidarité, je ne sais pas si tu connais quand même, mais c'est l'Empire Borello, hein, qui est un
Borello
très
qui est
très
un proche
proche,
de Macron et
absolument,
qui a
qui a
quelques
repris ça.
affaires de mœurs avec des enfants.
Absolument. Donc voilà, c'est lui qui a repris ça depuis un moment et qui, sous l'égide de l'économie sociale et solidaire, ce groupe SOS Solidarité, en fait, s'occupe, si tu veux, de tout, en fait, toutes les personnes de la plus tendre enfance jusqu'à la fin de vie. Voilà. Et sans compter que je reprends mes notes, mais c'est en plus aussi, ils ont investi le champ avec des activités commerciales, tourisme social, restauration, médias, commerce solidaire. Tu vois, donc ils sont vraiment sur tout. Ils absorbent de plus en plus les petites associations vraiment sociales qui sont autour. Et ben voilà, ça
Attends, attends,
devient.
quand tu dis absorber, parce que voilà, pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rachètent des associations? Qu'est-ce
Oui.
qu'ils font?
Soit il les rachète, soit il les récupère parce que bah, ça a du mal à fonctionner, il y a plus trop de financement, donc ça vivote et puis voilà. Du coup, c'est le groupe SOS Solidarité qui reprend et c'est un empire vraiment tentaculaire hein, qui est partout en France et qui, comme je te dis, travaille, enfin s'occupe, accompagne des personnes de la petite enfance jusqu'à la personne âgée.
Et tout ça, ils font leur chiffre d'affaires avec l'argent du contribuable.
Du contribuable. C'est pour ça que je tenais à écrire ce livre aussi, parce qu'il faut savoir que tous ces financements dans toutes les structures dont je parle, c'est de l'argent public. Et c'est pour ça aussi que c'était important d'en parler.
Bah oui, c'est excessivement important parce que moi, je pose à chaque fois la question, comment se fait-il que l'État soit autant déficitaire alors qu'on n'a jamais payé autant d'impôts depuis Clovis en fait. Et
Et ouais.
non mais c'est vrai, hein, et on paye des trucs sur tout, hein. Moi je vois rien que ici, là, je suis à Radio Courtoisie. Si je dois faire venir un invité qui vient en bagnole, ça va lui coûter un budget pour qu'il se gare. Ça reste que
Eh
ça.
oui.
Ce qui n'était pas le cas à l'époque, je sais pas moi, début des années 2000, quoi. Et même il y a 10 ou 15 ans. Et d'ailleurs, on le voit, des voitures avec des caméras qui passent partout parce qu'elles alignent, enfin voilà, ne serait-ce que ça. Nous payons sur tout, il n'y a pas quelque chose. C'est-à-dire que la chanson des Inconnus, rappelle-toi, Les Raptous, qui était qu'à
Oui.
35 ans, elle est,
Oui.
c'est une chanson qui est vraiment.
Complètement d'actualité et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant.
Et encore, ils étaient très loin de la réalité de 2026. Parce que moi, je vais te dire une chose. Au Moyen Âge, sous l'Ancien Régime, à la Révolution, un Français ne payait pas plus de 7% d'impôts.
Oui.
Et même si la Révolution, bon, elle était... influencés par les loges, etc. Voilà. Malgré
Oui,
tout,
ça
il y a quand même des gens qui se sont quand même révoltés parce qu'ils payaient 7%. Je veux dire,
oui.
aujourd'hui, on est à 45, 50, voire plus.
Oui, tout à
C'est
fait.
fou, hein? Mais alors,
Ouais.
donc du coup, on va parler de cet empire-là, Borello. C'est excessivement intéressant parce que voilà, on a un proche du président de la République. On a visiblement. Parce que moi, avant les affaires de mœurs, j'avais jamais entendu parler de ce Borello. Je le dis très
Oui.
sincèrement, et je pense pas qu'il était aussi important en l'an 2010-2015 qu'il n'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que sa proximité avec l'État lui permet aujourd'hui de créer un empire associatif?
J'ai mis plusieurs liens dans mon livre. Effectivement, hein, la question est posée. Hein. Ça, c'est une certitude que sa proximité avec Macron, no, d'autant plus que ça a augmenté effectivement la participation de l'État à cet empire, Borrello, a augmenté depuis que Macron est arrivé. Donc, effectivement, on peut quand même se poser la question. Toutes les, voilà, le beau label, donc les dernières estimations datent de 2023. Donc, c'était un chiffre d'affaires quand même qui est passé de 1,26 à 1,55 milliards d'euros.
Attends.
Oui.
Là, que les gens comprennent, là. C'est-à-dire qu'on a une super association,
oui,
on va dire, dont le président est un ami personnel du président de la République.
Oui.
Qui fait un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros par an?
Absolument. Et alors, pour la branche juste solidarité, donc dans laquelle moi j'intervenais, donc en 2022, elle a reçu 47 millions d'euros, juste pour la branche solidarité.
De qui elle a reçu?
Des subventions publiques.
Des subventions. Et ça, c'est sans compter le foncier que cette association oui. possède et qu'elle se fait financer par les APL, la CAF, etc.
Tout à fait. La sécurité sociale aussi. Enfin, j'ai tout mis, hein, si tu veux. J'ai mis le détail de tout.
Non, mais bien sûr, c'est pour les auditeurs qui n'ont pas lu le livre, parce que c'est important. Voilà, lise Philippe. On parle vraiment du social, c'est-à-dire l'imposture du social. Vraiment, lisez ce livre, vous apprendrez des choses et vous comprendrez pourquoi nous sommes si déficitaires, quoi. Mais, ouais. Et j'imagine que des SOS Solidarité, bon, peut-être pas d'aussi importantes, mais en tout cas d'autres, peut-être plus petites, moyennes, j'en sais rien, il en existe peut-être des milliers en France.
Ah oui, oui, puis après, c'est pareil, hein, les centres sociaux, toutes les associations, si tu veux, par exemple, quand je parle du CESA, de là, dans lequel j'ai bossé aussi, la directrice, donc le CESA, c'est, je rappelle, donc c'est pour les personnes, les jeunes, porteurs de handicap, pour les insérer, donc, à l'école, hein, c'est les classes ULIS, les classes PrEPAP, on appelle ça, et aussi pour les insérer professionnellement. La directrice, au début, elle m'avait recrutée juste pour intervenir une à deux fois par mois en tant que conseillère en économie sociale familiale pour faire une intervention comme ça auprès des jeunes, voilà, autour des questions sociales, gestion du budget. Hein. Et puis, elle m'a appelée très rapidement en me disant, on était en, je crois que j'étais en septembre, elle me dit, il faut que je boucle mon budget de décembre parce que j'ai encore des sous, donc venez bosser à 35 heures chez moi, chez nous, et vous donnerez aussi des cours professionnels, etc. Donc, pour te dire, quand il y a du budget comme ça, allez hop, on embauche quelqu'un parce que sinon le budget va disparaître, donc il y a des sous, il y a des sous. Quand on est dans des structures médico-sociales, il y a aussi la sécurité sociale qui prend en charge, hein. Donc, il y a le social avec la CAF, les aides d'État, les aides de la ville, les aides du département et très souvent médico-social, bien sûr, aussi la sécurité sociale, mais, l'assurance maladie.
Mais est-ce que, par exemple, ces associations comme SOS Solidarité, qui, je le rappelle, fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'argent public, est-ce qu'au moins cette association est plus efficace que les services de l'État? Est-ce que grâce à cette association, on a des gens qui sont réinsérés au maximum, qui étaient peut-être drogués, qui ne le sont plus et qui travaillent? Est-ce qu'on a tout ça? Est-ce qu'on a des vrais résultats?
Alors, le problème, c'est que moi, je parle de ce que j'ai constaté, d'accord? Et je suis quand même allée faire des recherches pour voir, évidemment, si on avait des statistiques des personnes qui sortaient et comment elles sortaient, effectivement, de ces dispositifs-là, de ces accompagnements. Alors, on a les statistiques des personnes qui rentrent, évidemment, hein, qui sont dans les dispositifs, etc. Donc, moi, dans les mesures ASEL, évidemment, j'avais le listing des personnes que j'accompagnais. Le problème, c'est qu'on n'a aucun chiffre qui est sur la sortie des personnes. Et je parle dans mon livre de quelque chose qui m'a profondément choquée, c'est que je recevais des personnes, moi, quand j'y ai bossé, qui étaient là déjà depuis 20 ans parfois. Donc là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Une personne qui est encore, alors là, c'était de l'alcool, parce que quand on parle de toxicomanie, on parle d'alcool, on parle de drogue autre, on parle de plusieurs choses. Hein. 20 ans dans la structure, avec tout cet accompagnement-là, qui vient encore chercher son Subutex ou sa méthadone, parce qu'on distribuait ça aussi dans la structure, et elle est toujours là après 20 ans d'accompagnement. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
C'est fou.
Tu vois ?
Non, mais...
Donc, et ce n'est pas une seule personne. Et quand j'avais réussi à trouver un logement à une personne SDF, j'avais été félicitée par toute l'équipe entière parce que c'était la première fois depuis je ne sais combien d'années que moi, j'arrivais à trouver un logement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que trouver un logement déjà, donc on parle dans le diffus, c'est-à-dire pas dans les logements sociaux, c'est compliqué pour une personne, je dirais lambda, qui n'a pas de problématique. Par exemple, une femme seule avec des enfants, vu les prix des loyers, c'est très compliqué. Un logement social, quand j'ai commencé à bosser dans le social, donc il y a 20 ans, c'était en moyenne, allez, 2 ans d'attente pour être, enfin, on était sur 2 ans d'attente sur une liste pour avoir un logement social. Aujourd'hui, on est entre 7 à 10 ans d'attente pour avoir
Et
un
là,
logement
on
social.
parle du côté de Marseille.
Ouais, de Marseille et les alentours, les
Voilà.
Bouches-du-Rhône, hein, effectivement.
Bouches-du-Rhône, voilà.
Donc aujourd'hui, entre 7 et 10 ans. Alors imaginez trouver un logement pour une personne toxicomane qui n'a pas de revenus, qui touche la plupart du temps le RSA ou des fois la pension d'invalidité, pardon, pas l'invalidité, la pension, mince, la CAF, là, excusez-moi,
Bon, une pension en tout cas.
pour les personnes porteuses de handicap, l'APA, pardon. Imaginez trouver un logement pour ces personnes-là. Comment on fait?
Oui, mais si SOS Solidarité a du foncier,
Ben, elle
comment?
n'en a pas pour tout le monde, en fait. Il y en a, mais il n'y en a pas pour tout le monde. C'est-à-dire que les logements sont pris déjà d'assaut depuis longtemps. Il y en a
Ah,
qui y restent
d'accord.
normalement. Normalement, c'est des personnes qui doivent y rester le temps de se remettre et effectivement de se libérer de ces addictions, 6 à 12 mois maximum. Sauf que ben, parfois, on en est à 5 ans dans le même logement. Donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas faute des travailleurs sociaux, ce n'est pas la faute non plus des personnels, hein, et je le dis bien, bien dans le livre, parce que beaucoup de personnes me disent, quand ils voient le titre, ils se disent, ah bah purée, elle va taper sur les travailleurs sociaux. Ce n'est pas du tout mon but, et ce n'est pas du tout, moi je suis très fière d'avoir ce diplôme et de faire ce travail-là. J'en suis aujourd'hui très, très fière encore. Et j'ai trouvé des personnes formidables qui font vraiment ça avec une envie d'aider leurs prochains. Donc c'est un hommage plutôt aux travailleurs sociaux, mais qui sont empêchés de faire leur rôle correctement d'accompagnement par tout ça, par tous ces dispositifs écrasants et toutes ces injonctions qu'on leur demande de faire finalement. Là, par exemple, dans ce cadre-là de SOS Solidarité, quand on voit des personnes qui sont là depuis 30 ans, on peut quand même légitimement se poser la question, comme on pourrait se la poser en médecine, hein, un patient guéri est un client perdu, est-ce qu'on peut poser la même question dans le social? Est-ce qu'on peut se la poser cette
C'est-à-dire
question-là?
que quoi? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a quelqu'un qu'on suit depuis 20 ans, ça veut dire qu'il rapporte de l'argent pendant 20 ans et donc on n'a pas intérêt à ce que cette personne-là puisse s'insérer et soit libre et indépendante?
Alors, je veux pas accuser, hein, bien sûr, c'est une question que je soulève, hein, et mon livre, c'est
Bien sûr,
ça,
bien
c'est
sûr, bien sûr.
de soulever la question, hein. Mais effectivement, ben, si ça ne fonctionne pas, c'est encore une fois pas faute de professionnels sérieux et qui sont engagés et qui font bien leur boulot. C'est quand même questionnant, hein.
Très. Surtout que c'est un domaine dont personne ne parle. Il coûte entre, faut dire les choses aux gens, hein, ça coûte 33% du PIB français, c'est-à-dire entre 800 et 900 milliards, 800 et 900 milliards par an. C'est quand même, enfin, je sais pas, c'est quand même de l'argent. Sachant qu'on a 150 à 200 milliards de déficit par an. Donc
Alors,
imaginons.
si tu veux.
Si nous arrivions à insérer, allez, deux fois plus de personnes, peut-être qu'il n'y aurait pas ce déficit tous les ans.
Bien sûr, complètement. Oui. Et après, ce qu'il y a aussi, et ce que j'explique dans mon livre, c'est que comme les politiques, en fait, c'est des grandes, tu sais, des grandes mesures dites sociales. Par exemple, cette année, c'est depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, c'était la santé mentale. Donc ça, c'est des grandes politiques sociales qui sont annoncées comme ça. Et en fait, l'année d'avant, c'était la lutte contre le décrochage scolaire. Tu vois, il y a des grandes politiques comme ça, mais qui sont décidées au niveau étatique. Et après, ça va ruisseler sur bah, département, ville, etc. Ça va être la priorité nationale et puis départementale et au niveau de la ville, etc. Sauf que ces politiques-là, ils ne sont pas sur le terrain. Et c'est ça que je questionne aussi. Et pourquoi, quand je parle aussi de solutions, c'est que elles sont décorrélées de la réalité et de la réalité des besoins des personnes sur le terrain.
Mais est-ce que tout cela est fait par une forme d'incompétence ou et parce que ces gens sont pas sur le terrain ou est-ce que on a une politique qui est réalisée sciemment au détriment des Français?
Alors moi j'ai deux. Alors je vais te répondre en tant que travailleur social déjà. On va se dire que ce sont des gens hors sol, d'accord, et qui ne connaissent pas les vrais enjeux parce qu'ils sont loin et parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Après, moi je me pose quand même sérieusement la question et tu le sais parce que bon, bah, je fais pas mal d'émissions aussi là-dessus, etc. Je suis assez engagée au niveau militant comme toi. Effectivement, hein, on voit bien qu'il y a une destruction quand même voulue de la France et des Français. Quand on parle de vivre ensemble, de belles valeurs là comme ça, de solidarité, d'entraide, de partage, ça c'est des belles formules que tu vas retrouver sur toutes les devantures, je dirais, des associations, de l'économie sociale et solidaire, etc. La réalité, c'est que on n'a jamais été autant divisé entre nous, on n'a jamais eu aussi peu de solidarité et d'entraide. Donc,
Pardon. Vas-y.
Non, donc effectivement, voilà, ça c'est, ce serait ma réflexion, mon pas de côté, pour répondre à ta question. Voilà, on pourrait s'imaginer quand on est dans le social comme ça, et j'ai été pendant longtemps, la tête dans le guidon, je dirais, que les gouvernements et les politiques sont hors sol juste et ne sont pas sur le terrain, donc c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Moi, j'ai quand même un autre avis sur la question, effectivement, que je viens de te partager. Je pense qu'il y a une volonté derrière, affichée quand même, je pense que ça se voit, effectivement, de détruire le tissu social. Le social, c'est parti avant. C'est qu'au XXe siècle que c'est devenu vraiment une préoccupation dite sociale et que les politiques publiques s'en sont mêlées. Avant, c'était la charité. Hein. Et ça s'organisait très bien au niveau des villages, notamment. Ça s'organisait très bien avec les églises, d'autres petites associations. C'était même pas des dites associations. C'était juste des corporations, des fois. L'entraide existait très bien. Il a fallu, quand en fait on a eu cette transformation au XXe siècle avec toute cette industrialisation, etc., forcément, et la concentration dans les villes des personnes, organiser tout ça. Donc
cette fameuse loi, cette grande loi républicaine de la Troisième République de 1901.
Absolument. Absolument, ouais, tout à fait.
Donc, en fait,
il a fallu cadrer et c'est là qu'en fait, vraiment, le coup de pied dans la porte a été mis et l'ingérence de l'État s'est faite.
Oui. Ça démontre, et là, j'en suis très content parce que j'en ai le témoignage, qu'avant la République, les gens s'entraidaient entre eux, il y avait une solidarité, il y avait l'Église aussi qui aidait.
Et, oui.
Et depuis la fin de ce temps-là, de ce temps béni, eh bien, et l'arrivée de tous ces démons, eh bien, 1901, l'association, 1901, laïcité, machin, et voilà les résultats concrets aujourd'hui. Alors, j'ai une intervention d'une dame qui nous pose la question. Bonjour à tous, quelle est la part de ces aides qui sont données aux personnes venant de l'immigration?
Alors, là, c'est un sujet vaste. Alors, il faut savoir qu'une personne migrante qui arrive sur le territoire, comme elle n'a pas de papier, elle n'a pas le droit aux aides de la CAF, etc., puisqu'elle n'a pas de papier. Elle a par contre l'aide médicale d'État. Au fil du temps, quand même, et ces dernières années particulièrement, ils sont maintenant de plus en plus, ces personnes, avant, on parle du camp, le fameux camp... dont le nom m'échappe et j'en
de
ai
Calais.
Parlé il y a deux jours. Merci beaucoup. Le camp de Calais où ils étaient en les uns sur les autres, enfin dans des conditions atroces. Aujourd'hui quand même, il y a une autre politique qui est mise en place, c'est-à-dire qu'on accueille ces migrants. On l'avait vu chez nous là, c'était dans le 13 ou 83, bon c'est juste à côté, avec un grand hôtel au bord de la mer où on avait accueilli plein de migrants, que des hommes jeunes et nourris, logés, blanchis. Donc il y a ça aussi, et avec de l'argent de poche aussi, évidemment, pour pouvoir...
Est-ce que l'on sait combien?
Honnêtement, non, je ne sais pas.
D'accord.
Je ne sais pas. Je vais pas répondre n'importe quoi, mais je sais, et on en a ici aussi, hein, bien sûr, dans les Bouches-du-Rhône, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui sont logés, et d'ailleurs, ça crée beaucoup de tensions, parce que quand on voit qu'un logement social, comme je disais, pour en avoir, nous, en étant français, c'est 7 à 10 ans d'attente, sur une liste d'attente, et encore, on n'est pas sûr d'en avoir un, quand on voit des migrants qui arrivent, effectivement, et qui, d'un coup, ont un logement, bon, bah, ça grince un peu des dents, effectivement.
Et donc, il y a ce logement, il y a cet argent de poche. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres
Ah
choses derrière?
effectivement, hein, ils ont des tickets, en fait, si tu veux, pour, c'est comme des tickets restaurants pour aller
D'accord.
manger aussi. Ah ouais.
Qui donne ces tickets restaurants?
Là, c'est l'État.
D'accord.
C'est l'État qui prend en charge ça, qui délègue parfois au département ou aux mairies. Tu vois, ce type CCAS, Centre communal d'action sociale. Des fois, c'est eux aussi qui prennent la relève. Mais c'est des aides directement, pareil, hein, c'est des financements publics, évidemment.
Et donc du coup, c'est pas de la fake news comme l'expliquent les journaux type Le Monde, etc. C'est-à-dire que
Absolument
vraiment,
pas.
il y a un vrai financement là-dessus, comme il y a un financement important du département vis-à-vis des mineurs isolés.
Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr. Oui, j'ai travaillé aussi au sein de l'ASE, je l'explique dans mon livre. Hein. Oui, absolument. Ce n'est pas, non, ce ne sont pas des fake news.
Est-ce
C'est
que
bien
l'on
réel.
sait à peu près quel est l'ordre de financement de ces mineurs isolés?
Alors, les MNA, je crois que mineurs isolés non accompagnés, je crois pas que je l'ai mis dans mon livre. Attends, j'essaie de te retrouver les chiffres parce qu'évidemment, je ne les ai pas tous retenus
Oui.
par cœur. Moi, je l'ai mis, j'ai mis les chiffres de ce dans quoi je bossais. Je
D'accord.
travaillais dans un centre qui faisait à la fois qui accompagnait les enfants de sur place, hein, c'est-à-dire qui étaient complètement sortis de leur famille. Ouais, je l'ai mis quand même, si tu vas l'avoir. Au 31 décembre 2023, 384 900 mineurs et jeunes majeurs bénéficiaient au moins d'une mesure ASE. Parmi eux, donc 221 000 bénéficiaient d'une mesure d'accueil en foyer, etc., etc. Et par mesure, par enfant, je vais te retrouver ça. Par enfant, je suis désolée, hein, j'ai pas les chiffres par cœur en
Pas
tête. Je
de
reprends
souci,
mon
pas de
livre.
souci, mais c'est important de l'avoir pour que les gens comprennent où va aussi leur argent. Parce que, alors, il faut pas laisser des mineurs dehors, hein. On est quand même en France, on a quand même une forme de charité chrétienne, on peut pas laisser des enfants dehors. Après, lorsque ce sont des mineurs non accompagnés qui viennent de l'étranger,
Ah, ça, c'est encore autre chose, ouais.
ça
Ah
reste
ouais.
quand même un coup, quoi.
Ouais. Alors, j'ai pas le coût des mineurs non accompagnés. Moi, j'ai mis les coûts dans quoi je bossais pour un enfant pris en charge, placé par l'aide sociale à l'enfance. Alors, il faut savoir que le placement, l'aide à l'enfance, c'est soit sur des structures, soit c'est du placement à domicile. C'est-à-dire que les enfants sont placés soit chez leurs parents ou un des deux parents s'il y a défaillance, soit chez leurs grands-parents par exemple, ou un oncle, une tante ou quelqu'un qui veut bien les accueillir. Et nous, en fait, en tant qu'équipe, on intervient dans la famille pour vérifier que le logement soit adapté, les éducateurs viennent deux à
Très
trois
bien.
fois par semaine chez la famille, etc. Et un enfant placé par l'ASE, c'est par enfant, hein, 41 000 euros par an. En
D'accord.
fait, c'est 110 à 120 euros par jour, hein, sachant que ça peut aller beaucoup plus si les enfants sont dans des foyers.
Est-ce que tout
Après,
cet argent
oui.
d'enfants français, pour le coup, parce que l'ASE
Oui.
c'est enfants français, est investi pour l'enfant? Ou est-ce que cet argent est éparpillé vers association A, B, C, D. Comment ça se passe?
Alors, c'est
Parce que
par
moi, je vais te dire une
association.
chose. Si
Oui.
40 000 euros vont à l'enfant, je serais content de payer ces 40 000 euros pour cet enfant. Mais est-ce que c'est le cas?
En fait, ça 41 000 euros par enfant, ça correspond au fait que donc il est placé, ça va payer l'équipe qui va aller à domicile les voir ou alors qui les encadre directement sur la structure. Ça paye forcément la structure Et aussi, quand on parle d'enfants placés, on peut imaginer, enfin, on parle de familles d'accueil.
Oui, mais est-ce que c'est bénéfique pour cet enfant? Est-ce que cet enfant est éduqué, instruit? Est-ce qu'il a un avenir après sa majorité?
Eh ben, le problème, c'est que je ne sais pas si tu te rappelles du. Je parle de N, on va l'appeler N,
oui.
Que j'ai. Moi, je l'ai connu, il avait 17 ans, d'accord, quand je suis arrivée. Donc, il avait fait plusieurs structures, il a été aussi mis en foyer d'accueil, en famille d'accueil, il a été séparé de sa sœur. Enfin, un parcours depuis l'âge de 2 ans jusqu'à là, c'est 17 ans. Et en 17 ans, en fait, ils ont décidé de le mettre dans un tout petit appart à côté, donc dans la structure, hein, mais à côté, un appartement qui était mis à disposition pour lui, avec évidemment nous des visites tous les jours, et éducateur, et moi, en l'essayant, là ils m'ont dit, bah, là il va être majeur bientôt, il faut absolument qu'il apprenne à faire à manger, à gérer un budget, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cet argent, il est mis donc pour les locaux, comme je disais, pour le personnel qui l'accompagne, et il y a quand même un forfait qui est donné par le département, un forfait pour l'enfant, c'est de l'argent de poche pour qu'il puisse vivre, et aussi il y a de l'argent pour la vêture.
Qu'est-ce que c'est ?
Donc, la vêture, c'est les habits qu'il doit se payer, les chaussures, etc. Sachant que cet argent, c'est nous, la structure, hein, qui lui donnons au fur et à mesure, chaque semaine, son argent, qui vérifions ses dépenses, etc. Donc, évidemment... voilà, ça pose question sur est-ce qu'on lui donne tout ou pas, voilà. Et ce mineur, justement, qui allait être majeur, ben à la sortie, qu'est-ce qu'il allait devenir?
Et qu'est-ce qu'il est devenu?
Eh ben là, je ne sais pas, parce que j'ai quitté la structure, je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Mais quelque chose de pas très bien, on va dire.
Voilà. En fait, les éducateurs qui sont là, moi, si tu veux, c'était plus sur le volet conseillère en économie sociale familiale, ouais, ouais, ouais. C'est plus sur le volet logement, budget, et la famille de manière globale, et les éducateurs, ils vont se concentrer sur les enfants. Donc, on travaille ensemble, hein, évidemment. Les éducateurs étaient là pour essayer de lui trouver un boulot.
Oui, mais est-ce que ce môme, il était à l'école? Est-ce qu'il était instruit? Est-ce qu'il peut être...
à l'école.
Ah, il n'était pas à l'école.
Il n'était plus
d'accord.
À l'école.
Okay.
Et il essayait de trouver, il avait trouvé un petit boulot dans un garage.
Mais il avait 17 ans. Attends. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de lui faire, je ne sais pas moi, il voulait travailler dans un garage, très bien, c'est un très beau métier. Est-ce qu'on n'a pas essayé de le mettre dans un BEP, CAP, dans des choses comme ça? Non.
Non. Non. Non, non.
Donc il n'a pas profité d'être à l'ASE. Pour apprendre un métier, en fait.
Non. Non, non.
Donc, l'argent investi n'a servi à rien.
Bah, a servi à...
à le nourrir.
Il a été sorti de chez ses parents.
Juste à le nourrir et à le loger, quoi.
Voilà. Bon,
mais
après,
nourrir et loger 41 000 euros, ça fait quand même un peu beaucoup.
Ouais, après, suivre le volet médical aussi, la santé... voilà, éduquer, hein, entre guillemets, aussi, à, hein, mettre des règles, à essayer de faire en sorte qu'il puisse
vivre.
Oui, mais
si mais si cet enfant, il a 17 ans, on lui donne un appartement, il vit seul, même si toi et vos collègues, vous le voyez aller tous les jours, je sais pas moi, oui. Un coup d'une heure, deux heures, j'en sais rien, un enfant de 17 ans, il est donc 22 heures ou 20 heures tout seul. Ça ne s'éduque pas pendant 20 heures tout seul. Je veux dire, les parents sont là avec leur enfant tout le temps, quoi, quand il a 17
sûr.
Ans. Donc,
bien
ça
sûr.
Veut dire qu'on l'a laissé un peu comme ça,
ouais.
Sans formation, sans rien. Et à 18 ans, on va lui dire, écoute, t'es gentil, t'as 18 ans là, plus une heure, bye bye. C'est ça?
Bien sûr, ouais, c'est ça.
Donc, un môme comme ça, en 2026, qu'est-ce qu'il peut faire? SDF, ouais. Prendre de la drogue, se prostituer, être cambrioleur, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre?
Ouais. Non, c'est une réelle question. Hein. Et puis en plus, tu vois, quand moi j'arrive, il a 17 ans, c'est là qu'on se préoccupe enfin de oh, « mais il faut qu'il apprenne à gérer un budget, il faut qu'on lui trouve un travail, absolument, dans ce garage, il faut qu'il soit pris. »
Mais comment lui trouver un travail s'il n'a pas de formation? C'est pas le garage qui va le former sur ses heures de travail.
S'il a de la chance, oui, mais non, effectivement. Ouais. Et je parle de choses très graves hein, dans cette structure. Moi, j'en ai été malade hein, de voir.
Tu as donné
Je parle
d'ailleurs le
de.
chiffre, qui est excessivement important, de 340 000 mômes à l'ASE par an. Si les 340 000 mômes à l'ASE finissent, enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. Si tous les ans, il y a je ne sais pas combien de mômes qui sortent de l'ASE, c'est-à-dire de l'aide sociale à l'enfance, s'ils sortent tous sans formation, sans rien, mais on a mis ces mômes en danger.
Ouais, et puis après il y a des questions. Je parle de la petite aussi, moi, qui m'a traumatisée et qui me traumatise encore aujourd'hui quand j'en parle. Une petite que j'ai connue, elle avait tout juste 3 ans. Ainsi, elle était avec ses parents au début, qui se sont séparés. Là, elle est restée avec la mère. L'école fait un signalement. Parce que il trouvait la mère un peu bizarre, elle avait des comportements un peu bizarres, la petite, elle parlait pas beaucoup,
Ouais.
etc. Bon. Et la mère, apparemment, un peu trop proche de sa fille. Signalement fait. Ok, ça
Oui, mais
part donc au
attends,
plus.
proche comment? Proche comme une mère ou
Ah ben, comme une mère,
Ah,
absolument.
d'accord, voilà, c'est pas
Oui.
plus, ok?
Ah, pas, ouais, absolument. Et signalement fait, donc ça part chez le procureur. Ça revient donc dans notre association. Prise en charge, donc placement à domicile au début, c'est-à-dire qu'on
Mais
intervient
pourquoi
chez elle.
placer? Qu'est-ce que les gens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, une mère de famille est proche de son môme, on appelle le procureur? Je comprends
Ah
pas.
ben en fait, c'est l'école qui a décrété que la mère, elle n'avait pas l'air très nette, et puis sa fille, elle ne parlait pas beaucoup, donc voilà, il y avait
Donc,
quand
le
même.
procureur.
Voilà, tout à fait.
Ok. Donc,
Donc
elle a été
cette
placée.
petite. Elle est placée, voilà. Et la mère, à un moment, a dit, écoutez, quand elle va chez son père un week-end sur deux, elle revient, ma petite, il se passe des choses avec le père. Donc la mère dépose plainte et tout contre le père. Il se passe des choses avec le père qui sont pas nettes, j'en suis sûre, etc. Bon, effectivement, elle a été vue par un médecin et ça a été quand même, oui, effectivement, il se passait des
Il se
choses
passait
avec le
des choses,
père.
d'accord.
Voilà. Au final, au fil de l'accompagnement, les éducateurs, l'équipe éducative là, de l'association dans laquelle je bossais se rend compte que bon, la mère, elle a des comportements aussi avec sa fille qui sont pas très nets. Bon, elle a pas, comment dire, elle a pas l'air d'avoir psychologiquement d'être apte complètement
Ah,
la
elle n'était
maman
pas
à
que
s'intéresser.
proche. Ah, d'accord, elle n'était pas que proche.
Non, c'est pour ça que tu vas comprendre
Ah,
parce
vas-y,
que en
vas-y.
fait, voilà. Psychologiquement, bon, il y a quand même des défaillances, il y a quand même des trucs qui, bon, et elle est très proche de sa fille. Quand les éducateurs arrivent à domicile, donc sachant que c'est souvent on prévient au dernier moment, hein, on vient quand on veut, c'est nous qui décidons, hein, selon nos emplois du temps. La petite, elle se colle à sa mère, elle va sur les genoux de sa mère parce que elle connaît pas les personnes étrangères. Donc moi, jusque-là, il y a rien qui me choque, hein, c'est normal. Enfin. Un enfant de 3 ans, voilà. Et ils décident que finalement, ils vont demander une garde quand même aussi pour le papa et qu'il va avoir le droit de visite pour le papa parce que la mère, on ne sait pas. Et puis le père, il a l'air d'aller bien quand on le voit, quand il voit sa fille comment dire, là, quand on reçoit les personnes en visite médiatisée. C'est-à-dire qu'il y a soit le psychologue, soit un éducateur avec la petite et le père. Bon, ça va, il se comporte mieux, donc on va octroyer des droits de visite au père un peu plus importants. Et là, la mère, elle vrille complètement, en fait. Elle leur dit, mais comment c'est possible que vous donniez la garde de ma fille, vous l'autorisiez encore un peu plus à la voir alors qu'il y a un dépôt de plainte, qu'il y a eu des attouchements, etc. Et en fait, elle s'enfuit avec sa fille. Alors, elle s'enfuit pas loin, elle quitte les départements. Elle est retrouvée par la police assez rapidement, et la petite est placée en structure. Donc la petite se retrouve, déjà, elle avait perdu son papa, sa maman, avec des violences sexuelles de la part du père. Elle se retrouve en institution chez nous, dans un foyer qu'elle ne connaît pas, avec des petits qu'elle ne connaît pas, avec une équipe qu'elle ne connaît pas. Elle n'a que son doudou quand elle arrive, plus d'ab. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Et devine quoi, Mike? Au bout d'un moment, donc les visites, la mère, elle est complètement interdite de voir sa fille. Voilà. Des visites médiatisées sont organisées avec le père, donc sur la structure, et il a le droit, petit à petit, au fil du temps, de la revoir et de l'accueillir chez lui un week-end sur deux. Premier week-end, hop, il a resévi, sévices sexuels. Donc voilà.
C'est fou, hein.
C'était pour. pour t'expliquer le, tu vois, et des fois, et c'est ça la limite que j'en parle aussi, des fois tu te dis, en tant que travailleur social, tu es, tu vois, c'est, tu as des situations où tu te poses la question, est-ce que ça va être bénéfique? Alors, je dis pas, évidemment, il y a des situations, si l'enfant est violé et fracassé tous les jours, évidemment qu'il faut faire un signalement ou une IP, information préoccupante, ça va de soi. Pour autant, il y a quand même aussi,
Vas-y,
la
conclue et on va
limite.
passer à la deuxième partie. Vas-y, vas-y.
Ouais. La limite aussi, c'est quoi? C'est finalement, est-ce que ça vaut le coup? C'est parce que le travailleur social, il est là pour évaluer, tu vois, sur des trucs où la maman, elle est très proche de sa fille, elle vient sur ses genoux, se coller à elle quand les éducateurs arrivent. Bon, bah oui. Enfin, tu vois,
Alors,
c'est quoi les
excuse-moi.
critères en
Bah, c'est
fait pour
clair.
faire une
Alors,
IP?
chère Lise, on va passer à la seconde partie parce que je dois lancer le bobino.
Pardon. Oui.
Chaque été, plus de 50% des donateurs de Radio Courtoisie cessent de financer nos programmes, mettant dangereusement notre existence en péril. N'abandonnez pas votre radio sur la route des vacances. Radio Courtoisie continue d'émettre en juillet et en août, mais nous avons besoin de vous pour passer le cap de l'été. Donnez à Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie. 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Et oui, Radio Courtoisie sera là tout l'été. Moi-même, je serai là tout l'été, sauf peut-être le 15 août. Oui, le 15 août, je ne serai pas là, mais je serai là avec vous tout l'été. Soutenez Radio Courtoisie parce que cette chaîne, c'est la vôtre. Cette station de radio, c'est la vôtre. Et vous en êtes les grands patrons. Si nous avions des annonceurs comme dans les structures privées, celles qui appartiennent aux grands milliardaires, eh bien, ce serait eux qui choisirait la programmation. On n'aurait pas eu Lise Philippe qui parlerait du social, de l'imposture, du social. Nous aurions eu évidemment d'autres personnes qui diraient comment le social est merveilleux dans ce pays, c'est-à-dire qui vous mentiraient. Nous ne sommes pas, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Donc du coup, nous sommes libres grâce à vous. Donc continuez à nous soutenir. Je reçois Lise Philippe, travailleur ce soir, pardon, travailleur social, pas ce soir, travailleur social, qui a écrit cet excellentissime livre, L'imposture du social. Vraiment, allez-y, c'est un livre que vous pouvez trouver sur Internet et vous y aurez des informations que les grands médias, les grands journaux, les grands JT ne vous donneront pas. Tout ce dysfonctionnement de ces structures, et après on comprend pourquoi les déficits sont aussi importants. Pour moi, bien entendu, et j'y mettrai du conditionnel, je pense qu'il y a un peu beaucoup aussi de la corruption du haut comme du bas, surtout que lorsque l'on voit des associations type, voilà, de celle de Monsieur Borello. 1,5 milliard, ça me paraît comme un peu beaucoup, hein. Des boîtes, des industries lourdes qui ne font pas 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires alors qu'elles ont peut-être des clients partout à l'international. Donc Lise Philippe, travailleur social. Tiens, question pour Lise. Bonjour, j'écoute votre invitée qui prétend que cela ne fonctionne pas. Elle commet une erreur. Au contraire, cela fonctionne pour ces organisations. Cela leur permet d'obtenir des budgets de fonctionnement qui leur permettent de vivre. Ces associations sans argent public ne seraient pas viables. Ben non, elle le dit, cher ami. Elle le dit. Elle le sait très bien.
Oui, je pense que
Et
c'était
elle l'écrit
ironique,
même.
non? Sans commentaire, je pense, oui. Tout à fait, oui.
Elle
Moi,
l'écrit.
je le prends comme ça, oui.
Voilà, elle l'écrit. Bonjour, madame. Ne pas oublier dans le secours l'assistance sociale, les corporations, les sociétés de secours, mutuelles à l'origine des mutuelles et les bourses du travail. Aussi.
J'en parle dans mon livre aussi, absolument.
Mais dans ce livre, tout le spectre du social y est. C'est-à-dire que
Oui.
je pense que c'est le livre sur le social en France qui est le plus complet de ce qu'il peut y avoir sur le marché. Parce que déjà, je n'ai pas souvenir qu'une travailleur sociale, enfin qu'un travailleur social ait écrit auparavant. Je crois pas. Non?
Il y en a si tu veux, mais c'était vraiment plutôt des témoignages. personnel, tu vois, il n'y a pas de, enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de d'études comme ça et de questionnement sur, parce que moi, c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce livre, c'est de questionner le système, de partager aussi avec les lecteurs, ben, comment ça fonctionne de l'intérieur, l'argent public qui est utilisé, et aussi d'aller plus loin, finalement, comment de la charité, on en est arrivé à cette gestion par avec des procédures et des process toujours plus importants les uns que les autres, et qui nous finalement nous enlève cette part d'humanité et de lien et de vraie charité. Donc c'est plutôt au détriment et des travailleurs sociaux et au détriment des personnes
Oui, parce
accompagnées,
que
hein.
dorénavant, ce sont des statistiques.
C'est ça. Et en fait, par exemple, dans un centre social,
Ah, ça coupe là un peu. Qu'est-ce qui se passe?
quand on
Ah
fait
là, c'est
des
bon.
événements, ils regardent beaucoup plus. Ah,
Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
effectivement, c'est ça quand on travaille. C'est revenu?
Ouais, c'est bon.
Tu m'entends, Mike?
Oui, très bien.
Ok. Donc, je disais, dans un centre social, par exemple, on nous demande toujours plus de personnes. Quand on fait une activité dans un quartier prioritaire, alors là, comme dans un quartier prioritaire, s'ajoutent aussi les financements de la politique de la ville, avec des événements spécifiques à faire, à être présent sur le terrain. Et en fait, ils s'intéressent
Qu'est-ce que
plus.
c'est que ces événements spécifiques à faire? C'est quoi? C'est une fête, la fête du quartier, c'est quoi?
Exactement, les fêtes de quartier, s'occuper des jeunes aussi, les occuper, faire des tournois de foot,
Ah,
organiser des
d'accord.
choses comme
Donc
ça,
c'est des
ouais.
choses qui vont visiblement servir et le quartier et à ces jeunes, quoi, de faire des tournois de foot.
Oui,
Peut-être qu'avec un peu de
absolument.
chance, un recruteur du Paris Saint-Germain passera à Clichy-sous-Bois ou dans les
Peut-être.
Bouches-du-Rhône et ce jeune sera le futur Mbappé, c'est ça, hein?
Peut-être, peut-être. Qui sait?
Et
Non,
du
après
coup,
les fêtes
l'État
de
dira,
quartier,
regardez, nous avons fait découvrir le futur
nous avons fait du bon
Mbappé.
travail. C'est ça, absolument.
C'est magnifique, la France.
Donc, après, tu vois, par exemple, une fête de quartier, c'est derrière, enfin, toujours. C'est pour créer du lien social, c'est
D'accord.
pour favoriser le vivre ensemble. Tu sais, c'est toujours ces mots que je répète souvent dans le livre, hein, parce que c'est important de voir derrière les affiches. Hein. Alors, je ne dis pas, évidemment, que ça ne crée pas de lien social et que ce serait mentir, hein, parce que moi, j'ai vu des belles choses aussi entre les voisins, bah, après, des personnes qui ont fait du lien, qui ne connaissaient pas grand monde et qui se voient à l'extérieur, qui arrivent à faire des activités ensemble, etc. Je ne dis pas que c'est complètement inutile. Mais il faut savoir que ça, en fait, ce qui les préoccupe plus au niveau de la politique de la ville notamment et du département par exemple et de la région des fois qui finance, c'est le nombre de personnes qu'on va recevoir, qu'on va accueillir pendant cette fête de quartier. Le reste, le travail social que tu vas faire, l'accompagnement avec eux ou pas, peu importe finalement. Tu vois?
D'accord, ça veut dire que s'il y a de la lumière, il y a à manger et il y a 2000 personnes qui arrivent, donc mission accomplie, quoi.
C'est exactement ça. Malheureusement. Et en fait, dans un centre social, moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est après de réussir. C'était un prétexte, en fait, hein, de faire une fête de quartier, un prétexte pour faire sortir les gens, pour les connaître, pour les rencontrer. Et s'ils ont besoin, de pouvoir les accompagner sur bah, plus ou moins long terme pour pouvoir les sortir de leurs difficultés. Sauf que bah, là, en fait, on nous dit bah, occuper la masse. Je le dis souvent hein, depuis longtemps. Je le dis, un centre social, c'est l'opium du peuple. C'est fait pour acheter la paix sociale.
Mais à part acheter la paix sociale, à quoi sert concrètement dans un quartier que des gens ont du lien social entre eux? Est-ce que ça leur permet de trouver un emploi? Est-ce que ça permet, je sais pas moi, moins de dégradation, moins de drogue? Est-ce qu'il y a du bénéfice derrière? Parce
Alors,
que c'est quand même des moyens créer tout ça, c'est quand même pas rien.
ouais, je suis très mitigée ça, là aussi sur cette question. Sachant que moi, je suis partie un petit temps et j'ai travaillé dans un centre social aussi dans le Var, hein, c'est à côté, mais dans le 83, et je suis revenue après dans le 13. Et les centres sociaux là, qui étaient et les quartiers prioritaires, dits prioritaires, n'ont pas bougé. Ce sont toujours depuis 20 ans les quartiers prioritaires encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Tu te dis, bon, ils sont toujours étiquetés parce qu'en fait, tu as les quartiers, quartiers sous surveillance et quartiers prioritaires. C'est que là, c'est surveillance accrue et on donne le maximum de moyens financiers pour pouvoir avancer, sortir des problématiques de drogue, de surlogement, de pauvreté, de taux de chômage, etc. Sauf que bah, dans la réalité, encore une fois, il n'y a pas moins de drogue. Hein, ça se saurait, on le verrait tous les jours. Et je peux en témoigner au quotidien qu'il y a bien des trafics de drogue. Il n'y a pas moins de chômage. Il n'y a pas moins de pauvreté. Les logements sont souvent suroccupés. Donc, voilà. Ça, c'est le constat froid, glaçant que je peux te faire. Pour autant, oui, si on s'axe que sur est-ce que ça crée, ça facilite le lien social entre les personnes, bah oui, ça les occupe un peu, ça leur fait, on fait des sorties aussi. Oui, ça sur le lien social un petit peu, sur le vivre ensemble, je ne suis pas persuadée. Mais
voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, on les fait sortir un peu?
On organise des sorties. On a des financements pour ça. Hein,
Attends. Ça veut dire quoi, organiser une sortie? Voilà, on vient d'un quartier marseillais. Qu'est-ce que ça veut dire, organiser une sortie lorsque je viens d'un quartier marseillais?
Par exemple, ça peut être... Alors moi, j'aime beaucoup les sorties culturelles, évidemment. D'accord. Parce que faire des sorties de consommation... il faut en faire quand même, hein, on en fait.
C'est quoi les sorties de consommation déjà?
Par exemple, de type Aqualand, de type...
Ah, ok.
Enfin voilà, des choses comme ça, hein.
D'accord, donc, le financement public va pour des sorties à Aqualand ou ou la fête à Neuneu, des choses comme ça. Et puis il y a aussi, donc du coup, des sorties dans un musée, j'imagine. C'est ça?
Oui, alors ça, c'est souvent en plus gratuit. C'est D'accord. souvent gratuit pour les centres sociaux, pour les personnes qui sont accompagnées par les centres sociaux. Ouais. 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 Ça peut être des vacances aussi. Des vacances, soit pour les enfants, soit pour les familles.
Quel type de vacances? Des colonies de vacances, c'est quoi?
Alors, pour les enfants, ça peut être des colonies de vacances avec les chèques vacances. Donc là, c'est D'accord. la NCV aussi, particulièrement pour les centres sociaux avec des montants qui sont quand même assez intéressants. La CAF aussi, la Caisse d'allocation familiale, participe à ces financements-là. Et des vacances en famille, ça peut être dans un camping qui prend les chèques NCV, les chèques CAF. Et puis ça peut être dans un camping, ça peut être dans un logement au ski, ça varie selon les régions.
Ben c'est...
Tu es un peu halluciné là, Mike, non?
Bah écoute, oui, c'est, je veux dire, en réalité derrière, bon, je comprends, pourquoi pas, les vacances, très bien, les sorties, bon, pourquoi pas, mais est-ce que derrière... On arrive à insérer des gens dans un travail, quoi. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on crée pas, au final, des gens qui, toute leur vie, seront biberonnés par l'argent du contribuable?
Il y en a, évidemment. Je vais pas dire qu'il y a pas de personnes qui profitent du système. Après, moi, j'ai quand même beaucoup de personnes qui travaillent, hein, donc qui D'accord. sont là, qui viennent en sortie.
Est-ce que c'est un marchepied, c'est ça, en fait?
Normalement, oui, c'est un levier, mais bon, évidemment, ça ne fonctionne pas à 100%. Normalement, c'est ça le but affiché, en tout cas. Après, dans la réalité, je peux pas te dire que ça fonctionne même à 50%. Hein.
Ah, bon. On connaît un peu les coûts globaux.
Les coûts globaux?
Ouais. Combien ça coûterait en France de toutes ces sorties?
Oh, alors là, non, je ne pourrais pas te dire.
Après, mais ça chiffre en milliards, j'imagine. En
fait. Ouais, bien sûr.
Parce que je vais te dire une chose. J'aime pas beaucoup l'État. J'aime pas beaucoup. Je pense que c'est un ennemi du peuple. J'aime pas trop la République. Je pense que c'est un régime qui colonise ce pays. Et je pense aussi que ce régime reste en place, bon, parce que malheureusement, trop de gens vivent grâce à l'argent du régime. Et nous sommes de moins en moins à financer ce régime, tant mieux, mais le moins en moins paye de plus en plus. Et au final, malheureusement, comme de plus en plus de gens vivent grâce au régime, les fonctionnaires, les gens des agences, tous ces gens dont tu viens de me parler, eh ben, il n'y a pas de changement. Parce que, en réalité, au moins la moitié des gens habitant ce pays, ou plus, n'ont pas intérêt à ce que le régime change, parce que ils sont sur-subventionnés. Mmh. C'est ça, non?
Et oui. Oui, mais j'en parle aussi dans mon livre.
Hein. Bah, je le sais, c'est pour ça que je t'en parle.
Ouais, c'est effectivement, c'est pour ça que je parle d'opium du peuple et de d'acheter la paix sociale, en fait. Évidemment que quand on est, on a des aides, on est super aidé, on est par exemple une personne qui est en logement social, qui a donc un logement social, un T4, il faut compter dans les, allez, maximum 500 euros de loyer. Qu'on a deux ou trois enfants, bah, y a la CAF qui donne une allocation logement qui peut aller jusqu'à des fois la moitié du loyer. Qu'on a des aides donc de la CAF autres, le RSA. Bon, alors le RSA, on n'en vit pas. Hein, attention, par contre, il ne faut pas se dire qu'avec maximum 600 balles, on vit. Hein. Mais si tu mets tout bout à bout... si tu veux quelqu'un qui va travailler, aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est l'écart des salaires entre les personnes qui travaillent et qui ne travaillent pas, enfin l'écart des salaires, l'écart entre les aides et les salaires. Si quelqu'un aujourd'hui travaille pour 1300 balles, doit mettre ses enfants tous les jours, s'ils sont petits, à la crèche ou chez une nounou, ça coûte super cher. Le prix de l'essence pour aller travailler, c'est une horreur. Tu fais le calcul. Des fois, si tu as trois enfants, il vaut mieux rester chez soi et pas travailler, surtout si tu es en logement social, hein, on ne va pas se mentir.
C'est ça,
financièrement, c'est plus intéressant. Hein. Non, mais il faut être honnête. Enfin, je ne suis pas là pour la langue de bois. Hein. Faut être honnête.
Mais, et ça, du coup, ça crée la situation actuelle. Malheureusement.
Ouais, et puis ça, et après, comme je te disais, enfin.
Alors, il y a aussi une chose. Je ne veux pas attaquer ceux qui bénéficient du social. Parce que, en réalité, il faut aller, je pense, aller au-delà de ça. Parce
que, je ne le fais pas non plus, hein.
Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui bénéficient, peut-être à tort, peut-être. Mais, pour moi, ceux qui sont vraiment fautifs, c'est Monsieur Borrello. Parce que lui, il bénéficie d'un milliard et demi de social, par contre. Et là, c'est autre chose. Et lui, il vit la belle vie. Et des Borrello, il y en a des dizaines de mille parmi les amis du gouvernement. Voilà. Ouais. Et c'est eux qui sont les plus dangereux. Parce que...
Oui,
parce que eux... l'autre, bon, ok, il a peut-être grugé 1000 balles, mais il a grugé 1,5 milliard. C'est quand même pas rien.
Puis je dis vraiment, enfin normalement, selon moi, hein, le vrai social, c'est pas ça. Il ne devrait pas y avoir ni une intervention aussi prégnante de l'État et pas la possibilité de personnes comme ça qui vont gabegie sur justement ce volet social en fait. Ça devrait pas être possible ça normalement. Et on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup de privés aussi qui arrivent avec des fonds privés. Notamment, tu sais, le Greta, l'école de la deuxième chance, voilà, tous ces gros organismes qui arrivent avec des gros financements, qui refont la même chose. Là, pour te situer sur là où je suis, sur la commune où je suis, dans laquelle je suis, il y a déjà 5 ou 6 centres sociaux par quartier, donc. Hein. Sur un quartier, il y en a 2 qui sont à, même pas 1 kilomètre l'un de l'autre. Et au milieu de ces 2 centres sociaux vient se mettre O2R, ça s'appelle. Donc, c'est pareil, c'est des financements privés qui vont proposer exactement les mêmes activités aux personnes en difficulté, avec la promesse de les réinsérer. Et écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Donc, ça va de 16 ans ou 15 ans à jusqu'à 99 ans, les personnes qui peuvent être accompagnées. Et sont proposées des activités tous les jours. Donc, t'as des activités que tu peux choisir. Ça va de la sophrologie, du yoga, à des vrais ateliers d'insertion avec on fait un CV, on va découvrir une entreprise, etc. Et les gens sont payés pour venir à ces ateliers. Et ils sont payés le même tarif qu'ils viennent à un cours de yoga par semaine ou à tous les ateliers tous les jours. Voilà. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que nous, dans les centres sociaux, on ne les paye pas pour venir, mais là, maintenant, on va payer pour participer à ce genre de... Bah, tu seras payé la même chose que tous ceux qui font tous les autres ateliers qui veulent vraiment s'insérer et trouver un métier, ou, enfin, une formation ou un métier.
Mais ça ne peut pas marcher, tout ça. C'est pas... En fait, moi, je pense qu'il y a vraiment un plan. Il y a un plan de rendre les gens, la majorité des gens le plus dépendants possible de l'État, pour que l'État, enfin pour que ceux qui représentent l'État continuent à vivre la belle vie et ne soient jamais embêtés par le peuple, quoi, on va dire, que jamais ils aient les barricades, la Commune de Paris ou que sais-je. C'est ça en fait.
Ouais, je partage assez ton avis, effectivement. Ouais. C'est sûr qu'un peuple, bah, comme on dit, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Hein. Donc, effectivement.
Non, parce que souvent, tu sais très bien, dans nos milieux, on nous dit oui, la révolution. Non, les gens ne vont pas faire la révolution. Hein. Sauf si ils peuvent faire la révolution, si demain, ce système, parce qu'il n'est plus financé et finançable, bah, s'écroule. Là, peut-être.
Alors ça, j'en parle... Ouais.
Ouais. Est-ce que tu penses justement que ça peut s'écrouler ?
Alors, tu vois, jusqu'à 2020, je me disais, ils n'oseront pas quand même, parce qu'à chaque fois, ils réduisent les budgets, ils se disent, il n'y a pas d'argent, machin. Et là, on voit qu'ils ont même réduit au niveau département les aides alimentaires. Tu sais, le département, les assistantes sociales font des aides alimentaires, des aides comme ça, enfin, faisaient jusqu'à maintenant des aides pour payer les factures d'électricité, des choses comme ça assez ponctuelles. Et là, ils ont complètement coupé, quasiment coupé les vivres, si je puis dire. Et je m'étais dit, jusque-là, ils oseront pas faire ça, parce que justement, là, ça va être le why. Et en fait, ils le font petit à petit. Mais il est clair que s'ils coupent, ne serait-ce que les aides au logement, là, ça va être le bordel. Et ils n'ont pas intérêt à le faire. Mais
tu sais, dans mon autre vie, j'étais attaché parlementaire au Sénat. Et en Seine-Saint-Denis, j'étais auprès d'un sénateur maire de Seine-Saint-Denis, dont je travaillais et au Sénat. Et parfois, j'allais dans sa mairie, c'était Neuilly-Plaisance. Et vient un jour un élu, parce qu'au Sénat on travaille avec les élus, parce que c'est eux qui votent. Un élu vient au Sénat, mon bureau, et me dit, voilà, il y a l'audit de Pierrefitte, une ville de Seine-Saint-Denis, Pierrefitte, qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'elle a été absorbée par Saint-Denis. Bon, c'était en 2010. Et il me dit, voilà, parce que l'élu, c'était un médecin, et donc il ne savait pas trop lire les trucs, bon, c'est des finances publiques, tout ça, c'est assez compliqué, bref. Donc, il m'a laissé son audit de la mairie, et donc je lui ai fait une note, et j'avais vu que à Pierrefitte, en 2010, il y avait des abandons de créances sur... Et l'abandon de créances, ça représentait genre 10-15 millions d'euros par an, hein, dans une collectivité locale d'une ville de 40 000 habitants. C'est quand même un peu d'argent. Bref. Et l'abandon de créances était aux trois quarts pour les loyers impayés. Des logements sociaux. Alors, est-ce que ça existe à Marseille ? Je ne sais pas. En tout cas, ça existe en Seine-Saint-Denis. Et il n'est pas impossible que s'il n'y a plus, en tout cas, d'aide au logement dans le public, que les maires, par crainte justement de révolution et d'avoir sa tête sur un piquet, fassent des abandons de créances.
Oui, c'est possible. C'est possible parce que je pense vraiment que c'est l'aide. Si tu la sucres, je pense que ce sera vraiment le bazar. Oui.
Alors,
c'est possible.
Une auditrice, pardon. Bonjour à tous. En fait, ce système mis en place a de beaux jours devant lui, car d'une part, il enrichit les amis de Macron et d'autre part, il pille notre système social. Est-ce que on peut dire ça ?
Oui, absolument, on peut le dire. Oui. Après, c'est encore une fois, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à l'écrire, à le sortir ce livre-là, parce que j'ai rencontré des personnes formidables et j'accompagne des personnes formidables et qui sont dans des misères pas possibles. Hein, donc c'est pas qui en ont vraiment besoin.
Est-ce qu'à cause de ce livre, tu as eu des répercussions négatives ? peut-être sur ta carrière? Est-ce que tu as eu des menaces?
Pas encore.
Pas encore.
Non, non, non. Après, même des personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, l'ont acheté et on savait ce que je disais.
Je vais te dire une chose, je pense que tu en auras très très vite et je vais te dire pourquoi. Parce que je vais t'amener dans mes émissions obligatoirement, parce que je pense que ce problème est crucial et je veux vraiment mettre en avant cette situation parce que justement, nous n'avons pas de spécialistes de ces questions et je vais te faire faire des plateaux. Et donc du coup, plus les gens le sauront, malheureusement peut-être pour toi, mais bon, c'est comme ça, parfois il y a le sacrifice, hein. Il faudra faire connaître cette situation. Mais obligé, il faut le faire connaître. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils sont volés. Voilà, ça s'appelle du vol, tout ça.
Ouais. Tu sais, Mike, que je l'ai mis dans mon introduction, hein, que j'avais conscience que j'allais lâcher une vraie bombe. C'est pour ça que je me suis permise de te l'envoyer. Je me suis dit que ça allait t'intéresser.
Ah bah oui.
Parce que, pas pour moi, mais évidemment pour ce que je raconte. Parce que ça me semble primordial et je crois que la question, on l'aborde peu finalement. Toutes ces dernières années particulièrement, bah, évidemment, c'était la santé. Je crois que le social est une question réellement prioritaire. Et en plus... une société qui se préoccupe pas finalement des personnes les plus pauvres ou les plus en peine est une société qui perd son humanité petit à petit. Donc il faut pouvoir aussi, parce
oui, mais
qu'on voit bien que ça
c'est
ça
pas pousse, que ça, il y a ça, bien entendu, et ça démontre aussi ce qu'était l'ancienne France, c'est-à-dire il y avait la charité et ça fonctionnait. Oui. Et on a tout cassé.
Exactement.
Déjà,
c'est
première
ça.
Des choses, et puis des gens qui peut-être sont honnêtes à la base, qui sont tombés dans la pauvreté parce qu'il y a des accidents de la vie,
oui.
Eh bien, parce qu'ils doivent se nourrir, ils doivent se loger, eh bien, ça peut faire des conneries.
Oui, bien sûr.
Et parfois, on tombe dans un engrenage qui fait que les bêtises sont très importantes. Et c'est toute la société qui trinque.
Ouais. Ben, tu vois, par exemple, j'ai rencontré, et pour dire aussi que c'est ça qu'il faut questionner parce que, et re-questionner, parce que évidemment, pour moi, ce système, tu m'as demandé tout à l'heure si ça allait à sa perte. Oui, ça ne pourra plus durer comme ça de toute façon.
D'accord.
Pour moi, c'est une certitude que, et financièrement, c'est plus tenable. On le voit bien. Là, ils sont en train d'essayer de reprendre le maximum d'argent en pensant aux épargnes des Français, aux machins. Donc, évidemment, le social, ça va pouvoir être financé à cette hauteur de toute façon. Ça va exploser en plein vol, à mon avis. On ne sait pas quand, évidemment. Mais des accidents de vie, ça arrive à tout le monde. Ça peut nous arriver à tous. Quand j'ai rencontré un monsieur toxicomane, là, quand j'accompagnais les personnes toxicomanes, en fait, c'était un architecte qui avait son propre bureau sur le vieux port de Marseille, avec plein de collaborateurs, enfin vraiment quelqu'un de bien inséré, hein, dans la société, qui était marié, qui avait 3 enfants. Et en fait, moi, quand je l'ai connu, il était alcoolique. Parce que de l'alcool mondain à la base, hein, tu sais, tu fais l'inauguration de ton cabinet d'architecte, les apéros, tu en fais de plus en plus, des réunions, des machins. L'apéro du soir devient le petit-déj aussi du matin, le midi, puis voilà, en fait, l'engrenage, sa femme le quitte, il ne voit plus ses enfants, et puis il dormait dans sa voiture. Voilà. Donc, il y a de réels enjeux sociaux, de toute façon. Quand le système va exploser, va péter, il va falloir se poser la question de comment on fait pour refaire société, comment on se préoccupe de la personne, de notre voisin,
faut se dire les choses, le système provoque justement les accidents de la vie. Pourquoi ? D'abord, il prolétarise nos jeunes. On voit, même toi tu es de ma génération, même si je suis plus âgé que toi, on voit que notre génération, d'abord, vit moins bien que celle de nos parents.
Oui.
Je ne vais même pas parler de la génération de nos enfants. Là, j'en parlerai même pas parce que ça ne sera pas bien du tout. Mmh. Et ça l'est déjà le cas. Des jeunes de 20 ans galèrent comme pas possible.
Oui.
Deuxième des choses, après, en France, après 50 ans, on est un senior, on est beau à jeter.
Mmh.
Ah oui. Et ce n'est pas après 50 ans... qu'une personne lambda trouve du travail.
Ah oui.
Voilà. Donc forcément, après 50 ans, il y aura pour allez, la moitié des gens des accidents de la vie. Voilà, c'est ça. Ouais, hein.
T'as ça.
Et sans compter. Allez, parce que comme tu sais très bien que je suis dixième dan de complotisme Chuck Norris, version Chuck Norris. on sait très bien qu'en plus les injections, tous les trucs que l'on bouffe et tout ce qu'on veut fait que les gens de plus en plus tombent malades.
Mmh.
Voilà.
Absolument. Avec.
Donc, les accidents de la vie, il va y en avoir, il y en a à tous les coins de rue déjà.
Mmh. Oui, complètement. Et tu fais bien de parler des injections aussi et de tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange. Bien sûr, puis ne serait-ce que l'évolution des cancers ces dernières années. Des cancers, des turbo-cancers, des trucs qu'on n'a jamais vus en d'autres temps. Enfin, je veux dire, ça, forcément, il va falloir se préoccuper de... Ça a un coût, tout ça. De pouvoir se soigner. Regarde, aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous médical ou pour faire une IRM, ou pour... il y a tout qui se casse la figure au niveau de la santé. Qu'est-ce qui tient encore aujourd'hui au niveau des services publics, notamment ? Je ne sais pas, hein, trouvez-moi un exemple.
Je sais pas.
S'il y a des auditeurs
Je vais te donner un exemple.
Quelque chose qui va bien.
Je vais te donner un exemple. Ce matin, pour venir à Radio Courtoisie, j'ai pris le métro. C'est dingue, hein ? J'habite Saint-Ouen, donc je prends ligne 14 et ligne 9. Bon, ligne 14, ça va, c'est la dernière ligne, ok, donc ça à peu près. Ligne 9, qui m'amène ici à Exalmance, ça va. Là, ça va plus. Là, ça... j'ai même eu peur d'arriver en retard, alors que je suis parti, ouais. Alors que normalement, c'est 10 minutes en bagnole, mais je ne prends pas la bagnole, donc, bon, je ne sais pas conduire, mais même si j'avais conduire, je ne prendrais pas la bagnole parce que j'en aurais eu... En fait, j'en aurais eu, je sais pas moi, pour 50 balles de bagnole, de stationnement. Donc, je ne prends pas de bagnole. Et alors que je suis parti 1h30 à l'avance, j'ai quand même eu 1h10. Alors, pour faire, allez, 15 stations. Voilà. Alors que le ticket de métro vaut dorénavant 2,55 €, c'est-à-dire 15,30 €. Beaucoup d'argent quand même, hein. 15,30 €. Moi, j'aurais pas cru qu'un jour je paierais un ticket de métro 15,30 €. Hein. Sans oublier le petit machin là en plastique qui vaut 2 €, c'est-à-dire 13 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour prendre le métro, il faut avoir un budget de 30 €. Pour ceux qui parlent encore en francs. Moi, j'aime bien parler en francs, tu vois.
Moi aussi, oui.
Voilà. Donc, c'est quand même. Et pour un service nul à chier en plus. Voilà. C'est la France. Et je parle même pas. Et j'ai pris une fois le métro à Marseille. Je vous conseille pas, les amis, de prendre le métro à Marseille. J'ai été insulté par le vendeur au guichet de station Saint-Charles. J'ai été insulté des noms, je vous dis même pas, par la gonzesse, pardon, qui m'a vendu le ticket. Donc je ne vous conseille pas de prendre le métro à Marseille.
Pourquoi t'avais été insulté ?
Je sais pas, il paraît que j'étais... J'ai dit bonjour madame, un ticket, comment je fais pour aller à la Timone ? Et là, je sais pas, là ça a été les foudres. Donc je sais pas.
Peut-être parce que c'était monsieur en fait.
Non, c'était madame, c'était vraiment madame. J'ai peut-être mégenré, ouais, c'est possible. Donc ne mégenrez pas les gens, surtout. Hein. C'est un conseil qu'on vous donne.
Oui, non, là, ça devient dangereux, oui.
Bon, allez, revenons au sérieux. Non, mais on rigole, mais en réalité, c'est dramatique tout ça.
Ah oui, mais en fait, comme je disais, je parlais des services publics, qu'est-ce qui fonctionne correctement aujourd'hui ? Tu vois, de plus en plus, même ne serait-ce que des choses pour prendre rendez-vous, je ne sais pas moi, avec l'urbanisme ou avec les dossiers, tiens, puisqu'on va bientôt parler de rentrée scolaire, les dossiers pour faire les cartes de bus, les choses comme ça pour les enfants, ça ferme de plus en plus. Il y a des heures spécifiques d'ouverture, mais pourtant, tu ne payes pas moins d'impôts, hein, des heures d'ouverture pour venir. Donc, toi, il faut que tu poses une demi-journée, voire une journée pour pouvoir faire une carte de bus, des parkings payants partout, la bouffe qui augmente, l'essence, les péages partout, les parkings payants, moi ici, il n'y a plus quasi, alors pas au centre social, enfin quand même, mais dans la ville, il n'y a quasi plus une place gratuite.
C'est pareil, hein.
voilà, ticket de bus, bon, c'est 2,10 € l'aller-retour. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué.
Mais donc, justement, la pression, toi qui vois énormément de gens, est-ce que les gens, quand ils sont entourés de tout ça, comment ils ressentent cette vie? Est-ce qu'ils en ont marre? Est-ce qu'ils sont fatalistes? Comment ils sont, ces gens?
J'ai les deux. Il y en a qui en ont... ils en ont marre, si tu veux, mais ils sont assez fatalistes avec... Bon, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Tu sais ces discours-là qu'on a entendus beaucoup ces dernières années. Donc oui, ils sont assez résignés en se disant, ben, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Comme les retraités que j'ai aussi dans mes ateliers, des personnes retraitées qui voient leur retraite diminuer, le loyer augmenter à cause des charges.
Ça, c'est très intéressant, ce que tu dis sur les retraités, parce que souvent, et moi, je vais contre ce message-là, surtout sur le réseau social X, nous avons nos générations qui pensons que les baby-boomers, d'après leurs mots, ont des retraites géantes. Et ce n'est pas le cas. Retraites géantes. Il faut arrêter de le dire.
Non. Ça, c'est pas vrai. Moi, ce que j'entends surtout... alors, je vais très rarement sur X parce qu'en 2 minutes, je suis énervée. Donc ça, c'est un réseau qui m'énerve.
Ouais.
Mais les boomers, si tu veux, moi, ce que j'entends plutôt comme critique, c'est vous avez bien profité de la vie, vous avez eu quand même quasi plein emploi, vous vous en fichiez complètement de l'écologie, etc. Voilà. J'entends rarement parce qu'en plus, je le vois, je suis au contact, comme je te dis, hein, dans un centre social. Hein, il faut savoir que tu as tout public, hein, donc j'ai beaucoup de retraités. Et non, c'est pas vrai que la majorité touche de grosses retraites. Bien au contraire. Non.
C'est plutôt du 1000 euros, voire moins.
Oui, c'est plutôt autour de. Et c'est exactement. Exactement.
Donc il faut quand même dire les choses. C'est pas parce que vous voyez Cohn-Bendit qui se pavane boulevard Saint-Germain que c'est la majorité des baby-boomers. C'est pas vrai. Alors, une auditrice nous pose la question. Toute cette désorganisation provient-elle aussi du millefeuille administratif mis en place au cours des décennies précédentes?
Ah, mais complètement. Ça aussi, j'en parle dans mon livre. Je fais justement la liste de tout. C'est un millefeuille, c'est exactement ça. Et même pour une aide lambda, je dirais, hein, ou pour une ouverture de droit sécurité sociale, par exemple, avec en plus, c'est démesuré. Déjà, tous les papiers qu'il faut faire, c'est souvent un dossier MDPH, par exemple. Quand je fais un dossier MDPH, donc c'est pour les personnes porteuses de handicap, pour une reconnaissance de handicap. C'est un dossier énorme. Il y a aussi le médecin qui doit remplir, donc le travailleur social. Il y a plein de justificatifs à fournir. Quand on l'envoie, moi, généralement, je le fais en recommandé avec accusé de réception parce que j'ai toujours peur qu'eux. Et malgré ça, ils trouvent le moyen de perdre un document. Pour tout ça, il faut reprendre le dossier complet, renvoyer, sachant que le délai de traitement, c'est en minimum 6 mois. Ça, et en plus, avec le tout numérique qui arrive, beaucoup de personnes sont en difficulté, et pas que des personnes retraitées. C'est pas évident pour tout le monde de comprendre comment on va sur Internet, quelle démarche il faut faire. Ah tiens, le mot de passe, non, il faut réinitialiser parce que tu l'as oublié, etc. Enfin, c'est du délire, c'est du délire.
Dernière question, chère Lise. Alors, je rappelle, Lise Philippe, L'imposture du social, son livre, qu'on trouve partout sur Internet. Allez-y.
Ouais, merci Maïk, c'est sur The Book Edition.
Très bien, ouais, excellent. Merci. Donc allez-y, L'imposture du social, Lise Philippe. Dernière question, est-ce que malgré tout ce qu'on s'est dit, pas très joli, est-ce que tu as malgré tout, tu es optimiste pour l'avenir de ce pays?
J'avais envie de te dire à ton avis. alors, non, je ne suis pas très optimiste, effectivement, si on prend les choses de manière globale. Et sur, je dirais, le côté amorphe des Français, quand même assez généralisé. Pour autant, et ça, c'est tout ce que je fais à côté aussi, qui me permet de le dire, toutes les émissions que je fais, les synergies auxquelles je participe.
Les émissions chez notre ami Eric Montana, disons-le.
Absolument, ouais, sur mes chaînes aussi personnelles, j'en fais aussi.
D'accord.
Depuis un moment. Toutes les personnes que je rencontre en vrai, on s'est vu nous aussi au Festival Nexus, notamment, hein, Mike. Voilà, là, il y a l'émancipation aussi, Synergie, bientôt, fin septembre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent.
D'accord.
Il y a plein de gens qui se bougent. Et j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est une société, si tu veux, qui se crée en parallèle. Donc ça, c'est pour moi, c'est très réconfortant.
C'est-à-dire que pour la société qui se crée en parallèle, qui a compris, ça va aller. Mais pour la très grande majorité qui, elle, n'a pas compris, ça ne va pas aller. C'est ça ?
Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Ah ouais.
Merci à toi. Merci à toi, chère Lise Philippe.
Merci beaucoup.
Voilà, son livre, L'imposture du social, book édition. Vraiment témoignage fort. Merci beaucoup. On a appris énormément. Je vous remercie bien sûr nos amis de la technique, Patrice. Passez un excellent week-end. On se retrouve même semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses de Mac Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie de 10h30 à midi et réalisé par Mickaël. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.